Et donc, ben, c'est pas la peine de le dire, puisque François l'a dit, on poursuit un Corinthien. Juste un petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu Paul utiliser deux images. La première, c'est que nous sommes croyants, le champ de Dieu. Et dans cette image qu'il appelle à l'église de Corinthe, qu'il applique à l'église de Corinthe, Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Et puis la deuxième image qu'il a employée, c'est l'idée d'un bâtiment, d'une construction, la construction de Dieu, avec pour fondement Christ, avec Paul comme architecte, dans le sens plutôt dans le sens étymologique du terme, hein, c'est-à-dire chef de chantier, pas trop l'idée de l'auteur des plans, mais chef de chantier. L'auteur des plans étant bien sûr Dieu lui-même. Et puis les croyants comme bâtisseurs, et chacun comme responsable de comment il construit dessus, par-dessus ce fondement. Et donc maintenant, je vous invite à lire la suite de ce passage, de cette épître aux Corinthiens. Et donc c'est Chantal qui va nous lire au chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 4, verset 2. Est-ce que ton micro est en route?
Waouh! Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui se passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il attrape les sages à leur propre piège. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi, qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés des secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée.
Merci. Alors, on voit ici Paul insister sur un point qu'il a déjà abordé précédemment, l'antagonisme absolu qui règne entre la sagesse humaine et la sagesse divine, la sagesse du monde. Et par le monde, bien sûr, il entend les valeurs, les caractéristiques d'une humanité sans Dieu. La sagesse du monde est une folie parce que, précisément, elle s'oppose à la sagesse de Dieu. Elle s'y oppose soit en n'en faisant aucun cas, soit de manière beaucoup plus frontale, en promouvant et en valorisant une philosophie, un mode de vie, toutes sortes de dispositions contraires à la volonté de Dieu. Et je nous renvoie ici à ce que Paul écrit aux Romains. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Nous avons ici trois choses qui caractérisent ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce qui est bon, et ça c'est dans le sens de ce que Dieu a déclaré bon, ce qui lui plaît, dans d'autres traductions agréable, c'est-à-dire dans le sens qui peut être agréé, accepté par Dieu. Et ce qui est parfait, c'est plutôt l'idée d'un accomplissement, d'une complétude, ce à quoi il ne manque rien. Et s'opposer à ceci, c'est une folie parce que ça nous éloigne de Dieu, tout simplement. Et c'est en cela que la prétendue sagesse humaine est en réalité une folie et non une sagesse, dès lors qu'elle cherche une autre voie afin de se soustraire à la volonté de Dieu. Avant même d'avoir fait le premier pas dans cette voie, l'intention même est une folie. S'y engager ne fait finalement que concrétiser la réalité de cette folie avec toutes les conséquences auxquelles l'humanité est confrontée depuis qu'elle a fait ce choix. Alors le problème, c'est que l'homme a beaucoup, beaucoup de mal à reconnaître ses erreurs. Et un exemple très concret, très universel, c'est celui du dérèglement climatique, combien d'années, de dizaines d'années se sont écoulées depuis les premières alertes. C'est dur pour l'homme de se dire « je fais fausse route ». Il y a toujours au fond de lui ce désir de conserver, de cultiver une bonne image de lui et de ce qu'il a construit. Et il est beaucoup plus facile de rester dans l'illusion, c'est ce que dit Paul aux Corinthiens, c'est ce mot même qu'il utilise au verset 18, « on n'est jamais si bien trompé que par soi-même ». Ce qui est bon à mes yeux, ce qui est agréable, acceptable à mes yeux, ce qui est parfait, complet, à quoi il ne manque rien à mes yeux. Mais le problème, c'est que mes yeux sont myopes et qu'ils ne voient qu'à court terme. Ils sont incapables de plonger leur regard dans l'éternité. L'homme était dans une espèce, consciemment ou non, de « après moi le déluge ». Et donc, s'agissant des Corinthiens, ils veulent avant tout croire qu'ils font partie des sages et qu'ils ont le droit d'en être fiers. Et c'est là que si quelqu'un de Paul sonne comme un avertissement. Il ne vise personne en particulier, si ce n'est la situation particulière de l'église de Corinthe. Et il revient à ce que nous avons déjà vu précédemment, à savoir que la foi en un Jésus-Christ crucifié entraîne un renversement complet de la pensée et en conséquence du comportement. La sagesse dont les hommes sont si fiers n'est que folie. D'où la surprenante exhortation qu'ils deviennent fous, car c'est ainsi qu'il deviendra sage. Alors bien évidemment, Paul ne fait pas l'éloge de la folie. Il provoque les Corinthiens pour les réveiller. Si c'est ça, être sage, mais alors, soyez fous. Et pour démontrer que cette idée n'appartient pas qu'à lui, il convoque les Écritures, il prend les sages à leur propre piège, ou encore le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Ce sont deux phrases tirées respectivement du livre de Job et des Psaumes. À partir du verset 21, désolé, je me retourne parce que c'est un petit peu flou là-bas. À partir du verset 21, Paul tire la conclusion de ce qu'il vient de dire. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent tournait autour de l'orgueil des Corinthiens à se donner des maîtres à penser en les personnes d'Apollos, de Pierre et de lui-même. Et ces Corinthiens reproduisaient en cela une culture grecque friande de philosophie et d'éloquence. Et du même coup, son discours a consisté à dénoncer la folie d'un tel penchant au regard du renversement de pensée qu'implique leur foi en Christ. Jusque dans sa conclusion, le renversement de pensée se poursuit. Oups là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que au secours là-bas? Voilà, on y est. Très bien. Le renversement de pensée se poursuit. Tout est à vous. Ce n'est pas vous qui appartenez à Pierre, à Paul ou à Apollos. Ce sont eux qui vous appartiennent. Ils ne sont que de simples serviteurs. Ça marche, ça suit. Ils ne sont que de simples serviteurs, des intendants chargés de vous transmettre les secrets de Dieu. Pour Paul, c'est clair, il n'est pas là pour cultiver son aura. Et d'ailleurs, tout dans ces trois premiers chapitres montre qu'il désapprouve tout autant ceux qui le mettent, lui, sur un piédestal, que d'autres qui le font à l'égard de Pierre, d'Apollos ou d'autres encore. Je vous annonce la bonne nouvelle de Jésus, qui aime et veut sauver tous les hommes, qui ne fait pas de favoritisme. Et vous, vous vous chamaillez pour savoir qui d'Apollos ou moi est le meilleur prédicateur. Ou de qui de Pierre ou moi est le plus grand apôtre. Et plus j'y réfléchis, et plus je me dis que ça doit être très frustrant, très décourageant pour Paul. Et sa façon de revenir plusieurs fois, de manière répétitive, comme ça, sur la question, me fait penser qu'il en conçoit une véritable frustration. C'est vrai, quoi. Ce n'est pas à ça qu'il a travaillé. C'est ni plus ni moins qu'un détournement de sa prédication. Lorsque je me suis lancé dans la préparation de cette prédication, c'était jeudi matin, je n'avais pas du tout prévu d'aborder la question que je vais aborder maintenant, mais à force de tourner autour et dans la perspective de l'élargissement du conseil que nous aurons la semaine prochaine, je nous pose la question de quelle manière soutenons-nous nos responsables d'Église ? Qu'est-ce qui, de notre part, va le plus les stimuler, rendre leur service plus léger, plus joyeux ? La réponse la plus évidente, je pense qu'il vient de l'esprit de tout le monde, c'est notre prière pour eux, bien sûr, et pour leur famille. Leur consacrer une part de notre temps avec le Seigneur, c'est sans doute le meilleur qu'on puisse faire pour eux. Mais ensuite, bien évidemment, on va basculer sur des choses plus concrètes. Notre assiduité au culte et aux différents rendez-vous de l'Église, l'assistance au groupe de maison et à la réunion de prière, qui est un bon marqueur de l'intérêt qu'on porte à l'avancement du royaume de Dieu dans notre champ d'action. Peut-être moins évident, mais sans doute beaucoup plus gratifiant pour les responsables d'Église, en particulier ceux qui enseignent, ce n'est pas que leur enseignement soit loué ou félicité, mais qu'il soit suivi. Il n'est pas parfait, et j'imagine que celui de Paul ne l'était pas non plus. Mais rien n'est plus stimulant pour un responsable que de constater les progrès spirituels des personnes et ceux de la communauté. On donne à manger, à boire à un enfant, et il grandit. Bon, il y a du déchet. Il grandit. C'est toujours un émerveillement pour les parents. Fermons la parenthèse, revenons au texte. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend des serviteurs ? Juste qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. L'intendant, le serviteur, sait que son travail va être soumis au jugement du maître et il doit être prêt à en rendre compte. Dans la Bible, fidèle est synonyme de sûr, loyal, digne de confiance. Le serviteur fidèle est celui à qui son maître peut se fier, qui ne déçoit pas dans son attente, qui remplit sa charge selon les instructions reçues, qui a toujours en vue la satisfaction du maître. Vous aurez reconnu le modèle idéal, l'archétype qu'est Jésus, le serviteur fidèle, le modèle à imiter. Tout est à vous, dit Paul aux Corinthiens. Moi, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Il manque le passé. Ben non, le passé ne nous appartient plus. Et tout le reste est à nous. Faites-en ce que vous en voudrez, leur dit-il, la balle est dans votre camp. Mais souvenez-vous d'une chose, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. C'est à lui que vous rendrez des comptes de tout ce que vous en aurez fait, pas à moi, pas à Pierre, pas à Apollos. Vous appartenez à Christ et non à un homme, aussi brillant soit-il. Dans l'appartenance à Christ dont il est question ici, il n'est pas tant question de hiérarchie que d'alliance, d'attachement confiant, de dépendance. N'y voir qu'une hiérarchie ou une soumission nécessaire, ce serait rester prisonnier de la mentalité du fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Ce jeune homme qui sert son père un peu à contre-cœur et se plaint de ne pas avoir de récompense, il n'a pas réalisé son privilège d'avoir pu se tenir en présence de son père durant toutes ces années. Et la réponse du Père est finalement assez semblable, du même ordre que celle de Paul. « Mon enfant, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Tout est à vous. » Et bien entendu, la relation qui unit le croyant au Christ, tout comme celle qui unit le Christ à Dieu, le Père, n'est pas exempte de soumission, c'est vrai, mais Paul met ici en avant la dépendance. Nous placer volontairement en position de dépendance vis-à-vis de Christ, comme lui-même vis-à-vis du Père. Dans la mise en œuvre de sa foi en Christ, le chrétien est invité à servir non sous la contrainte, mais dans une libre offrande de lui-même. Il passe de la servitude au service. Et dans ce service, tout lui appartient. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'il en est de Paul, de Pierre et d'Apollos? Eh bien, c'est ce que va nous expliquer Paul dans les versets qui suivent.
Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même, car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient.
Merci. Pour ma part, peu importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Certains pasteurs se sont servis de cette déclaration pour soustraire leur ministère à toute forme d'examen, de discernement, même de la part de leur père. Et je ne savais pas qu'on allait parler tout à l'heure à propos des préoccupations du CNEF, de la question de l'abus d'autorité. Mais c'est oublié un peu vite, un peu trop vite, que l'apôtre Paul lui-même, appelé par Jésus lui-même, à qui Jésus est apparu en personne, Paul a pris la peine de faire le voyage à Jérusalem pour rencontrer les apôtres et recueillir leur avis sur un problème qui se posait à Antioche dans son église. Et il va même leur rendre des comptes sur son ministère parmi les païens et recevoir leur approbation. Pour ceux que ça intéresse, on lit ceci en acte 15. Alors si quelqu'un vous dit « Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu, je n'ai que faire de la vie de l'église ou des autres pasteurs, fuyez. » Et je dois vous dire que j'ai même entendu ceci récemment sur Internet de la part d'un prétendu apôtre qui semble malheureusement faire pas mal d'audience parmi les chrétiens. Et pourtant, alors, n'est-ce pas ce que Paul exprime ici? Et je pense que pour le comprendre, il faut se replacer dans le contexte et reprendre son argumentaire. Il l'a dit et répété, l'attachement excessif des Corinthiens à la personne des maîtres humains est propre à créer des rivalités et des divisions. Mais en plus, un tel attachement n'a pas lieu d'être, puisque ces personnes n'ont pas vocation à être des maîtres, mais des serviteurs. Qui plus est, des serviteurs d'un autre maître, Dieu en l'occurrence. Ils sont mis à notre disposition par un autre maître. Et donc Paul maintenant va leur faire comprendre leur erreur aux Corinthiens qui consiste à se poser en juge des apôtres dans lui-même. Celui qui donne sa confiance à un maître à penser trouve toujours de bonnes raisons de justifier ses réserves, sinon ses critiques, à l'égard des autres conducteurs de l'Église. Et donc, en s'attachant aux hommes, les Corinthiens remettent implicitement en question l'autorité de Paul. Et alors, je vais juste rappeler ici ce qui a été reproché à Paul par les Corinthiens, ce qui lui est arrivé à ses oreilles, pour la forme tout d'abord, son manque d'éloquence et de persuasion dans le discours, certaines malaisances dans la rhétorique, et pour le fond, une prédication qui met en avant un Christ crucifié, donc faible, une image qui ne colle pas du tout avec l'idée d'une sagesse supérieure telle que la culture grecque la valorisait. Et pour toutes ces raisons, les Corinthiens ne constituent pas l'instance compétente pour juger Paul, pour le juger lui, pas plus que les autres apôtres, et c'est ce qu'il explique ici. Pour autant, est-ce que ça signifie que Paul aurait pris la grosse tête, qu'il aurait basculé dans un mode hors contrôle, genre prédicateur autoproclamé? On sait qu'il a pris très au sérieux les recommandations que lui ont données les apôtres lors de son passage à Jérusalem, dont je parlais tout à l'heure, et il évoque même lui-même dans l'Épître aux Galates une recommandation qu'il a reçue de leur part de se souvenir des pauvres. Son propos écarte toute velléité de sa part de s'affranchir de la vie et du conseil de ses pairs. Mais surtout, il n'a pas perdu de vue qu'il a un juge, son Seigneur, à qui il devra rendre des comptes. S'en remettre au jugement de Dieu n'est pas chez lui une manière de botter en touche, mais un véritable abandon au jugement et à la grâce de Dieu. Un jugement qu'il sait redoutable en toute sa vérité et sa justice. Le jugement de Dieu mettra en lumière ses intentions véritables, ses motivations profondes. Et seule la grâce infinie de Dieu fera de lui, comme de nous, des justes aux yeux de Dieu. Dans les affaires défrayant la chronique, très souvent, les personnes mises en cause se drapent dans leur innocence et déclarent à qui veut l'entendre « j'ai ma conscience pour moi ». Récemment, on a même entendu « je suis blanc comme neige ». Et cette façon de se retrancher derrière sa conscience vise surtout à garder la tête haute devant les hommes face à l'humiliation de devoir rendre des comptes à la justice. Mais rien de tout cela ici. Paul dit, moi, quand je m'examine, et je m'examine, je ne trouve rien de répréhensible au niveau de mes intentions et de mes motivations. Mais je reconnais que mon propre jugement ne tiendra pas devant la justice de Dieu. Son propos n'est donc pas d'échapper au jugement de Dieu, mais c'est même tout le contraire, c'est d'y recourir. Car il sait que les jugements de Dieu sont vrais et sont justes. Je vérifie qu'on est toujours bien synchrone, très bien. D'où cette recommandation aux Corinthiens de ne pas juger avant le temps. Avant le temps du jugement que le Seigneur exercera à son retour. Alors peut-être verrons-nous une contradiction entre cet appel de Paul à ne pas juger avant l'heure et d'autres exhortations par ailleurs à être des adultes en matière de discernement, ce que manifestement les Corinthiens n'étaient pas à ses yeux. Ou encore ces appels à exercer le discernement en Église, en particulier à propos des dons et des ministères. Et ça nous projette dans, une nouvelle fois dans les dispositions que nous avons à prendre la semaine prochaine. Il nous faut faire une distinction entre, d'une part, un jugement évaluation, un jugement qui cherche à y voir clair dans un moment donné, dans une situation donnée, ou encore au sujet de l'exercice des dons dans l'Église, des capacités des personnes à exercer des responsabilités. Et d'autre part, et ce qui est le cas ici, ce dont il est victime, le jugement accusation qui poursuit et condamne les personnes, qui prononce sur elles un verdict. Et c'est contre ce jugement que Paul nous met en garde, car Dieu seul est capable de l'exercer en toute vérité et justice. Dieu seul connaît les cœurs. Nos points de vue humains sont partiels et partiaux. Nous figeons dans un passé des situations qui peuvent encore évoluer, contrairement à Jésus, par exemple, avec la femme adultère. Comme les ouvriers dans la parabole de l'ivraie, nous sommes pressés d'agir avant le temps pour faire le tri avant la moisson. C'est de ce jugement qu'il est question ici, un jugement pour lequel nous n'avons pas reçu de mandat, mais qui s'exercera par Dieu lui-même à son retour. Voilà, nous arrivons au terme de cette première partie de la lettre aux Corinthiens, hein, qui concerne tout ce sujet autour des maîtres à penser que les Corinthiens se sont donnés. Une vigoureuse interpellation de la part de Paul sur cette fâcheuse tendance, au risque de susciter des rivalités entre eux, heureusement, entre les apôtres. Heureusement, ces apôtres, Pierre, Paul, Apollos, étaient au-dessus de ça. Et surtout, peut-être au risque de créer des divisions entre les croyants qui, par contre, malheureusement, eux, sont tombés dans le panneau. Cette section de la première épître aux Corinthiens a été de plus de trois chapitres et 75 versets tout de même, preuve que quand même cette question des maîtres à penser que les Corinthiens se donnaient, Paul en concevait une profonde irritation. Et intercalé dans ce propos toute une approche comparative de la sagesse humaine versus la sagesse divine, tout un renversement des valeurs, folie, sagesse, force, faiblesse. Que dire ? Que dire pour conclure aujourd'hui et pour conclure toute cette section ? Moi, ça me paraît un peu évident. Soyons fous. Soyons fous. Soyons fous de la sagesse de Dieu. Soyons fous de ses commandements, de ses instructions et même de ses jugements. Soyons fous de son amour pour l'aimer lui, lui en retour pour l'aimer d'un amour fou, et nous aimer les uns les autres. Soyons fous de la présence de Dieu en nous et parmi nous. Soyons fous de son Église, ce champ qu'il fait croître, avec tous ses ouvriers qui plantent et qui arrosent. Soyons fous de cette construction qu'il bâtit avec ses chefs de chantier, ses maçons, l'Église qui est un signe pour les hommes, la présence de Dieu parmi eux. Ne craignons pas de ne pas savoir bien parler. Avons-nous besoin d'éloquence ou que Dieu parle en nous et à travers nous? Ne craignons pas d'être vulnérables? Avons-nous besoin d'être invincibles ou que Dieu soit victorieux en nous? Ne craignons pas la faiblesse? Avons-nous besoin d'être forts ou que Dieu soit fort en nous? Je vous laisse avec ces réflexions.
Merci Philippe.